Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on vous accompagne évidemment jusqu'à midi ou en podcast. Tiens, je sais, j'ai reçu des messages là d'auditeurs, auditrices qui nous écoutent en courant ce matin. On espère que ça vous motive, peut-être même pour faire un trail. Tiens, on va en parler dans un instant. Je sais que Sarah, ça te fallait plus vite, toi. Hein, on en parlait ce matin.
À vous écouter, oui. Parce que des fois vous m'énervez.
Mais c'est pour ça, mais tant mieux.
Oui.
On te fait surperformer. Oui. Sarah Pilkowski, Julien Beneteau, Christophe Cessieux, Pascal Duprat. Dans un instant, on va parler de Marseille avant Monaco. OM 20h45 ce soir sur RMC. L'OM de Genesio a-t-il les moyens d'être ambitieux? On écoutera la punchline du coach phocéen. Mais d'abord, une grande championne nous rejoint.
RMC face aux grandes gueules du sport.
Elle a été la meilleure au bout de 174 km et après avoir passé plus de 10 000 mètres de dénivelé dans une ambiance de dingue. Quand je le dis, j'hallucine encore. La gagnante du Oka Ultra Trail du Mont Blanc, Blandine Lirondelle, est face aux grandes gueules du sport ce matin. Salut Blandine!
Bonjour et bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Bah écoute, c'est nous qui sommes ravis de t'avoir avec nous. Bon, je vais donner le temps parce que je pense que c'est assez évocateur pour tout le monde. 21h54 et 49 secondes d'effort pour s'imposer hier. Alors là, je t'écoute, t'as du sourire dans la voix. Comment on se remet de ça? Comment on est ce matin là? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps?
Je pense qu'il me faudra plus qu'une nuit pour me remettre de tout ça. Mon corps est un petit peu fatigué, mais l'esprit est juste tellement, tellement heureux et soulagé de cette belle performance que ça permet de relativiser de toutes les douleurs physiques.
À l'arrivée, Blandine, tu disais à tes supporters, vous êtes zinzin d'être venu aussi nombreux. Mais c'est pas toi la zinzin finalement, et tous tes camarades qui avaient fait ce truc de dingue. Parce que ça c'est complètement dingue de faire 174 km, 10 000 mètres de dénivelé, de pas dormir pendant 20 heures et d'être toujours sur la brèche. C'est un truc surhumain quelque part de faire un ultra trail.
Oui, c'est vrai que moi c'est le sport que je pratique, mais j'avoue que je suis consciente quand même que c'est pas le sport santé comme on l'entend. C'est même moi, hein, je trouve que c'est à chaque fois que je finis un ultra trail, je suis énormément fière, quel que soit le temps, et je pense que tout le monde peut être fier, ceux qui se mettent ça comme objectif, parce que oui, faut le faire, et voilà, moi j'ai mis entre guillemets que moins de 22 heures, et je me dis que là il y en a qui sont encore en train de courir, qui ont passé la deuxième nuit dehors, qui vont arriver que ce midi, et aussi ils ont tout le respect qu'ils méritent.
Et on rappelle, t'as aussi gagné la Diagonale des Fous, hein, autre trail impressionnant. On est avec Blandine ce matin, Blandine Lirondelle, la gagnante du Oka Ultra Trail du Mont Blanc. Alors tu sais que toutes les grandes gueules du sport ont envie de te poser des questions, hein, quand on a dit que t'étais là ce matin, ça fascine tout le monde. Sarah Pilkowski.
Blandine, est-ce que tu peux nous dire comment on tombe dans l'ultra trail, parce que c'était pas ton sport initial dans l'absolu, et est-ce qu'il faut...
Tu étais une bringueuse même avant que tu faisais la fête.
Il faut plus une qualité ou une volonté ou les deux?
Alors oui, effectivement, j'étais plus une bringueuse, hein, j'étais plus adepte du lever de coude que du lever de jambe. j'ai découvert ça complètement au hasard. À 26 ans, quand je suis partie de ma Normandie, où je savais même pas qu'en fait que le trail existait, à La Réunion, pour y vivre 2-3 ans. Et là, c'est vrai que j'ai découvert le trail. Et donc, je commençais à faire des petits trails en off, puis à prendre des dossards. Après, c'est une question de qualité ou de volonté. L'ultra trail, au début, j'étais pas non plus si folle que ça, hein, si zinzin comme tous ces gens qui étaient là hier. J'ai pas commencé direct à faire un ultra.
Et je recommande pas.
C'est ça. Ou alors on est tous un peu zinzin dans notre tête, je pense. Et au début, on commence par des petites distances, enfin petites, des distances de 10, 20, et puis après, on va sur des 60, des 100, et ensuite, on se met l'objectif de l'ultra trail. Mais, effectivement, comparé à d'autres sports, vraiment, l'aspect mental et volonté, est bien plus dominant que l'aspect physique, hein, sur un ultra, parce que sur l'ultra trail, comme Baptiste Chassagne qui a fait deuxième, chez les hommes. Deuxième aussi. Mmh. Ouais, chez les hommes. Il aime bien dire, nous, on court moyen vite longtemps. Le courir moyen vite, entre guillemets, tout le monde peut le faire. L'humain est quand même, l'être humain est quand même l'animal le plus endurant qui existe sur Terre. Après, il faut avoir le mental pour pouvoir accepter la douleur, être résilient et avoir envie de se farcir entre 20h et 48h dehors.
Blandine, alors Pascal Duprat est savoyard, je pense qu'il s'est dit pendant 20 heures, mais qu'est-ce qu'ils font autour de Mont Blanc? Qu'est-ce que tu veux demander à Blandine?
Laissez-le tranquille.
Pascal. Non, mais franchement, chapeau, merci d'être là, merci à vous d'avoir invité Blandine. Blandine, moi j'ai une simple question, mais il faut que tu me répondes, franchement. Au bout de combien de kilomètres, t'as envie de rentrer chez toi? Au bout de combien de kilomètres, le mental prend le dessus, tu te dis, voilà, t'es cuite, mais faut y aller, quoi. C'est tout de suite, c'est permanent, c'est...
Franchement, j'ai envie de te dire, même dès le kilomètre zéro, hein. On est sur la ligne de départ, on dit, mais là, on part du début. Effectivement, je serais quand même mieux chez moi, sur le canapé, là, à siroter mon petit truc, mais voilà, on a cette, on s'est fixé cet objectif et voilà, on a envie d'aller jusqu'au bout du truc. Après, pour être totalement, un peu plus dans l'UTMB de d'hier, là où vraiment ça commence à être très très dur, on va dire que ça a été au kilomètre 150, où là vraiment j'ai vraiment plus de jus, plus de sensations, et là c'était vraiment le mental qui a pris le dessus surtout.
On est avec Blandine Lirondelle, la gagnante du Hoka Ultra Trail du Mont Blanc. Les grandes gueules du sport à fond ce matin pour lui poser des questions à Blandine. Julien Beneteau, qui est de mauvaise humeur ce matin, mais quand on a vu que t'étais là, tout de suite il s'est dit qu'est-ce que c'est
que ce truc. L'écoute pas, Blandine, l'écoute pas. Non, moi j'ai plusieurs questions ou éclaircissements à te demander, Blandine. Déjà bravo. Je sais pas pourquoi cette année l'UTMB, moi dans mon entourage, sur mon téléphone, dans mon algorithme,
tout est à bloc.
Non mais j'ai eu plein de vidéos, plein de trucs.
Ouais, c'est monté d'un cran vraiment. Non mais
il y a un engouement. Comment toi tu ressens, comment vous ressentez cet engouement qui est grandissant, surtout avec ce cérémonial au départ qui est fantastique, hier aussi à l'arrivée quand tu commences à approcher de Chamonix avec cette musique, avec ce monde qui est digne des plus grandes étapes du Tour de France.
Ouais, cool. Ça fait vraiment penser à une étape du Tour de France.
Hier on a regardé ça en direct et mon épouse elle pleurait tellement elle était émue.
Alors comment découvert,
alors ouais, c'est découvert. comment ouais. Toi, comment en tant qu'athlète, en tant que trailer, vous ressentez, toi tu le ressens, ça?
Bah, c'est vrai qu'effectivement, d'année en année, je trouve que l'UTMB, enfin le trail en général, mais voilà, encore plus l'UTMB prend toujours une étape de plus dans la médiatisation, dans l'engouement. Mais hier, ça a été, mais j'arrive même pas à trouver le mot pour définir la popularité qu'il y a eu déjà de Saint-Gervais. Donc c'est au kilomètre 30.
Ouais,
il y a souvent
toujours
un peu d'ambiance, ouais. Mais c'était incroyable, j'en ai perdu mes tampons, le lapsus, mes
tampons, il y a pas de problème.
J'en ai perdu mes tympans et je les ai jamais récupérés jusqu'à aujourd'hui, parce que même à Chamonix il y avait un monde de dingue. Et le pire, c'était vraiment sur la à partir de Valorcine, donc c'est kilomètre après 160, là toute la montée de la Flégère, c'est la dernière montée, le monde est arrivé à la Flégère. Souvent il y a la Flégère, donc c'est la station de ski qui est juste avant la dernière descente. Et moi j'avais comme ça, parce que j'ai déjà fait deux fois l'UTMB et deux fois la CCC, et puis à chaque fois j'étais un peu déçue parce qu'il y avait plus grand monde à cet endroit-là, parce que tout le monde partait pour aller voir l'arrivée des premiers hommes, et je pensais que ce serait pareil. Et quand je suis arrivée à la Flégère, mais j'ai vu une horde de gens. Ça fait un moment, il y a une piste de ski qui fait une forme de S, mais je voyais même plus la piste de ski, je voyais juste des gens attroupés à la queue leu leu en forme de S qui étaient là à crier mon nom.
C'est bien.
Et ensuite j'ai fait toute la descente, mais il y avait au moins 40-50 personnes qui me suivaient dans la descente. Et l'arrivée de Chamonix, pour en avoir fait plusieurs, effectivement le dernier kilomètre, souvent c'est rempli de gens de part et d'autre pour nous supporter. Mais là c'était même peut-être 3 kilomètres avant,
ouais,
les gens étaient c'était noir de monde, étaient hallucinés.
Ça donne de l'énergie, je présume, dans les derniers kilomètres.
Bah, t'as profité aussi,
ça finit en larmes.
Est-ce que t'as pu profiter?
Ah, ouais. J'ai profité.
Ouais, mais vraiment, ça se voyait.
Entre, effectivement, hier, j'ai gagné l'UTMB, mais je pense que ce qui m'a le plus marqué, ça a été ça. Ça a été l'engouement
la communion
public,
avec le public.
La communion. Ouais. Et puis, voilà, les gens m'envoyaient toujours des messages de comme quoi j'étais inspirante, comme quoi j'étais. Enfin, j'ai toujours envie de pleurer. Et j'étais hyper émue de tout ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que pour l'instant, c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué que d'arriver première sur la ligne, sous l'arche de Chamonix.
Dernière question. Qu'est-ce qui est le plus dur dans un exercice aussi long, Blandine? Qu'est-ce qui est le plus dur? La fatigue physique, la fatigue morale, mentale, les montées, les descentes, la nuit, le froid. Qu'est-ce qui est le plus dur finalement dans cette très longue aventure?
Ça va beaucoup dépendre de l'édition, mais là on a une météo plutôt clémente. Beaucoup de personnes sont un peu le plus dur pour eux, ça va être surtout la nutrition, d'avoir du mal à s'alimenter. Moi, par chance, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Le plus dur, je trouve, c'est quand même les douleurs physiques. C'est différent d'un autre sport où ça va être, d'un autre sport où ça va être la performance, donc l'intensité qu'on va y donner. Nous, dans ce sport-là, c'est juste savoir gérer la douleur musculaire. Les crampes, les troubles digestifs, toutes ces choses-là, autre que l'intensité de la douleur, parce que pour j'ai par exemple je suis quand même une athlète assez polyvalente et par exemple en début d'année j'avais fait les championnats de France de cross qui pour moi là, c'est tout aussi difficile, même si c'est plus court, parce que parce qu'on a les poumons dans la bouche pendant plus de 30 minutes, et moi je trouve ça cette douleur je la trouve infâme, et quand même je préfère l'UTMB. Mais par contre, effectivement, à partir d'un certain moment, il va falloir faut poser le cerveau et faire un exercice pour essayer de ne pas trop se concentrer sur la douleur, ou de faire en sorte que on accepte la douleur, mais on va prendre soin du corps un petit peu plus tard. C'est ça aussi, voilà, il y a beaucoup de mental.
On fait sonner les
mental et de préparation mentale.
Tu te maries, Blandine?
Ouais, on fait sonner les cloches pour toi à Chamonix,
c'est
ça?
Oui, c'est l'heure de la messe, Blandine.
Ouais, excusez-moi, juste à côté de l'église, mais c'est sympa, ça donne un petit peu.
Bah, c'est ça, on y est là, au pied du Mont Blanc. Merci beaucoup, Blandine Lirondelle, la gagnante de l'Ultra Trail du Mont Blanc.
Félicitations.
Tu reviens quand tu veux à la table des grandes gueules du sport. Hein. Je t'ai dit, t'es chez toi ici. Hein.
Elle court le dimanche matin.
Allez, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Par contre, même si j'ai plus de tympan.
Par contre, viens me faire un entraînement.
Allez, par contre, tu viens en courant, on t'attend dans 20 heures. Allez,
à plus, Blandine. Ce sera pas dans les mois qui suivent, alors.
Merci beaucoup. Allez, excellente, merci. Blandine Lirondelle, gagnante du Oka Ultra Trail du Mont Blanc. Voilà, c'est ça les grandes gueules du sport hein, aussi. On découvre des grandes gueules du sport en direct.
Des personnalités. Gynécologue, la tête bien fait et le corps bien fait, super championne
effectivement, on est tous abasourdis effectivement par ce qu'elle a réussi, donc près de 22 heures de course, franchement c'est surréaliste. Abonnez-vous sur RMC Running évidemment, hein, sur toutes les plateformes de podcast, sur les réseaux pour suivre toute l'actualité. On va revenir en long et en large sur cette édition. On revient dans un instant, Bennett, on va parler de l'OM, c'est vrai, ça te plaît ça?
Ouais, si ça me plaît, mais c'est terrible là.
Monaco-Marseille ce soir, l'OM de Genesio a les moyens de ses ambitions ou pas? A tout de suite.
RMC.
Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble.
Les grandes gueules du sport.
Ce qu'on va voir, c'est les gens qui vous aiment.
9h midi.
On a besoin que de nous pour se maintenir. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles.
Georges Quirineau.
Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. C'est ce que vous avez fait il y a quelques instants en écoutant Blandine Lirondelle, la gagnante du Hoka Ultra Trail du Mont Blanc. J'ai reçu plein de messages. Hein. Évidemment, désolé, on n'a pas pu poser toutes les questions que vous voulez. On a posé plus ou moins celles que vous nous aviez envoyées sur WhatsApp. Mais voilà, tout le monde lui rend hommage. Hein. Patrick le dit, merci de mettre en lumière Blandine. Voilà, exploit extraordinaire. Elle fait pleurer les gens tellement l'émotion était forte. Même Bennett avait les poils. Même Bennett avait les poils. Même le Bennett d'aujourd'hui, qui est quand même un sacré
très bonne humeur.
Ah oui, dis donc, qu'est-ce que ça va être quand t'es de mauvaise humeur, toi? Dans un instant, j'y crois pas. On va parler de Johan Zarco, de retour en MotoGP 3 mois après sa terrible chute. Grand Prix d'Aragon à 15h sur RMC. Est-ce qu'on peut en venir, par exemple, complètement indemne d'une blessure traumatisante? Mais d'abord, la Ligue 1. Monaco reçoit l'OM à 20h45 en clôture de la deuxième journée. À suivre sur RMC. L'équation pour Marseille cette saison. Peut-on faire plus? Avec moi, punchline de Bruno Genesio, le coach phocéen.
RMC, la punchline GG.
On est dans une situation très périlleuse et très difficile parce qu'on doit à la fois équilibrer une situation financière mais aussi bâtir une équipe compétitive. Remplir les deux conditions, c'est pas facile. loin de là, oui, je savais qu'il y avait des difficultés. À ce point-là, j'imaginais pas qu'au 29 août, on en soit à avoir zéro recrue et à vendre un de nos meilleurs joueurs à ce moment-là. Mais c'est comme ça. On doit s'adapter à beaucoup de choses. Sur le terrain, en dehors du terrain aussi maintenant, lorsqu'on est entraîneur. Voilà.
On a connu les entraîneurs plus en forme, hein, plus en début de saison. Effectivement, c'est un peu la soupe à la grimace là, hein, parce que le mercato s'achève ce mardi à 19h59. Et comme l'a dit Bruno Genesio, l'OM n'a toujours pas accueilli la moindre recrue. Le gendarme financier du foot français a contraint Marseille à baisser drastiquement sa masse salariale pour respecter les règles. Les départs de Greenwood, Medina, Rouli, Aubameyang, Traoré, Nadir ont renfloué les caisses. D'autres vont peut-être suivre. Hein, Balerdi est sur le chemin de la Roma. L'OM, la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir recruté, la deuxième des cinq grands championnats avec l'Athletic Bilbao. Hein, la stat, elle est quand même impressionnante. Bilbao, qui en plus a l'habitude de plutôt recruter basque ou de former basque. Hein, donc, c'est un cas en plus un peu particulier. Les GG, je vous pose la question. L'OM de Genesio a-t-il les moyens, franchement, d'être ambitieux? Oui ou non? Christophe?
Non.
Bennett?
Ça dépend ce qu'on définit dans l'ambition. Mais moi, ouais, non, c'est top 6, quoi.
Sarah?
Max? Non.
Pascal?
À l'instant T, oui.
Tiens, sur le compte, sur le compte des grandes gueules du sport, on vous a quand même posé la question. L'OM de Genesio a-t-il les moyens de ses ambitions? Vous dites oui à 14% seulement.
Ah oui.
Ce matin, évidemment, on vous attend, supporters marseillais au 32-16 et sur WhatsApp. Tiens, Pascal, tu dis oui. Pourquoi tu dis oui?
À l'instant T, il a dit.
À l'instant T.
Mais même.
Je dis oui parce que, en fait, les bijoux de famille, l'OM les a encore. Donc, on va attendre le premier pour savoir si tout le monde, véritablement tout le monde, tous ceux qui sont pressentis pour partir, vont effectivement partir. Donc, il faut attendre. Parce que si l'OM ne vend pas tous les joueurs qu'il espère vendre, alors à ce moment-là, l'OM sera compétitif. Pourquoi l'OM sera compétitif? Parce que d'abord, d'une part, mis à part le PSG, les concurrents, ils sont tous abordables parce qu'ils n'ont pas plus recruté ou un tout petit peu plus recruté que l'OM cette année. Bon, je vous rappelle que le foot français n'est pas très fortuné, donc ça tombe bien pour l'Olympique de Marseille. Et puis, l'OM est doté d'un entraîneur digne de ce nom.
Il le dit lui-même, il n'est pas magicien. Hein.
Alors là où je suis surpris... bon Dieu sait si j'adore Bruno Genesio, mais je suis surpris parce que je comprends pas en fait la conf. Il le sait. Il sait que l'OM a été attrapé par la patrouille. Il sait que l'OM peut pas recruter tant qu'il a pas vendu. Parce que en plus, il faut qu'il ait vendu, mais suffisamment pour pouvoir recruter. Parce qu'il y a
un petit coup de pression pour ses dirigeants, non? Pour leur dire, écoutez les gars, faites quelque chose quand même, parce que là, je vais pas m'en sortir avec.
Ouais, mais je crois que Marc Courte, ils ont quand même dû dire à Bruno que Marc Courte, il voulait plus mettre un rond.
Ouais.
Donc que à partir de ce moment-là, c'est comme ça, c'était acté. Cela dit, oui, il est certainement courroucé parce qu'il voit les joueurs partir les uns après les autres et il se dit mais mince, je vais me retrouver en slip.
Non, mais c'est ce qu'il dit surtout
là.
Au 29 août quoi, au 29 août, c'est surtout ça.
Il faut attendre le premier. Moi voilà, c'est pour ça d'abord que j'ai dit oui parce que la concurrence, et on l'a vu hein, Lens est allé perdre à Strasbourg qui avait été catastrophique en deuxième mi-temps à Marseille en prenant 4 la semaine dernière. On a vu que c'est pas si évident que ça, que Lyon a du retard à l'allumage, quoi qu'on en dise. On fait match nul contre le Havre, donc l'OM peut compétitif pour finir dans les trois s'ils ne perdent pas tous leurs joueurs.
Jamais. Tiens,
bien sûr que oui, Bennett. C'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, un très bon entraîneur, qui est Bruno Genesio, qui est capable de fédérer, y compris. C'est un club unique. Ils ne peuvent pas se contenter d'être dixième à Marseille. Il le sait, Bruno. Donc attention à ce que Marseille ne perde pas tout le monde.
Tu les vois terminer sur le podium.
S'il ne perd que Pechao, par exemple, moi je te dis qu'ils peuvent finir dans le top 3.
Pechao, blessé.
Il y a quand même un mercato d'hiver, il peut encore se passer des choses, c'est-à-dire
il faut avoir des sous,
je parle de vendre.
Bien sûr, voilà.
Je parle de vendre en fait, c'est qu'ils ont une épée Damoclès, ils vont peut-être vendre qu'un seul joueur là, mais il va encore avoir la pression à mi-saison et ils vont devoir dégraisser.
Quand vous dites qu'ils ont vendu un joueur.
Non, jusqu'à la fin du mercato, je parle.
Ah oui, encore un supplémentaire, parce que les Greenwood, Aubameyang, Traoré, Medina, Rouli, qui étaient quand même les têtes d'affiche.
Bien sûr.
Tout ça, c'est
mais cela dit, l'équipe.
Ce qui est compliqué, c'est les salaires aussi.
Qui était espéré, paf, il a signé à Lens. Aujourd'hui, qui veut aller à l'OM?
Il faut RMC Sport. Effectivement, le Todibo qui n'est pas venu à Marseille, on vous l'a annoncé ce matin. Toi Bennett, en fait, le truc, c'est que pour toi, l'ambition de Marseille, c'est pas d'être sur le
podium. Qui veut aller à l'OM? Il y a certains joueurs qui peuvent venir et Todibo voulait venir à l'OM,
c'est que là, ils ne peuvent plus les payer.
Non, Todibo, c'est qu'il ne peut plus attendre. Et donc Lens.
Oui, c'est ça. C'est quand qu'ils n'ont pas.
Ils se sont mis d'accord avec tout le monde, l'OM sur
Todibo. C'est bien d'attendre le 1er septembre, mais en fait, c'est le panic buy, c'est le panic sold. Enfin, je vois pas comment tu construis une équipe quand tu dis que ta deadline, c'est le 1er septembre. En fait.
Non, mais surtout, c'est valable pour tous les clubs de Ligue 1, pardon. Hein. Oui, ils sont tous en train de se dire, le 1er septembre, on saura définitivement quel est notre effectif.
Oui, ils sont pas aussi en danger que l'OM.
Sur quoi ? Sur l'ambition ? Non, mais sur. Moi, j'entends quand on dit oui, c'est l'OM, ils peuvent pas se contenter de viser la 8e place, la 9e place, enfin c'est l'OM, enfin c'est un OM Canada Dry, c'est une version light de l'OM quoi.
On disait ça du Girondins de Bordeaux, il y a pas
si longtemps. Et aujourd'hui, ils ont plus les moyens de leurs ambitions.
Ils sont en place éco quoi. Dans l'avion.
Complètement, quoi. C'est fini.
Je suis pas d'accord avec vous. L'effectif de l'OM aujourd'hui est largement supérieur à beaucoup d'effectifs de Ligue 1.
Tu le places sur le podium, dans le top 5 du championnat de France.
Alors, certes, comme tu l'as dit, Christophe, ils ont perdu beaucoup de joueurs déjà.
Ben oui.
Ok. Notamment un des meilleurs buteurs du championnat, Greenwood. C'est pas rien, c'est pas neutre. Ok. Le gardien de but, c'est pas rien, c'est pas neutre. Enfin, bref, le gardien de but, il est aussi bon, tu verras. J'insiste.
Oui, Bruno Genesio a
cette aptitude à fédérer autour de lui, ok, à une attitude qui va plaire à ce club qui est unique. Parce que des tribunes, ça peut être un formidable engouement. Non, mais et peut-être que cette équipe-là, elle va exploser.
Bennett pense que ça suffit pas en fait. Donc toi, t'es déjà désemparé en fait, Bennett.
Non, je suis pas
mais c'est quoi Bruno Genesio.
Je suis lucide.
Bruno Genesio et Grégory Lorenzi, qu'est-ce qu'ils doivent donner comme ambition lucide à leurs joueurs? Ça doit être quoi l'objectif de Marseille?
Honnêtement, enfin moi, je suis directeur sportif. Si tu dis à mon entraîneur, si tu termines 5e ou 6e et qu'on est qualifié en Europa League, t'as fait une énorme saison. Voilà.
Mathieu, on va poser la question.
Aujourd'hui, Bennett.
Ouais, aujourd'hui. Ils n'ont pas d'effectif. Ils ont 11, 12. Allez, ils ont un 11 titulaire qui tient la route. Mais il va y avoir des blessés, il va y avoir des suspendus, il va y avoir l'Europa League. Tu vois, ils peuvent terminer derrière Rennes, ils peuvent terminer derrière Lille, le PSG,
c'est déjà mieux que cette année.
Ça va se jouer à touche-touche.
Pascal, tu considères l'effectif marseillais meilleur que l'effectif de l'OL, ou à peu près égal?
Moi, l'OL, ils ont aussi des besoins. Apparemment, je lis depuis quelques jours, ils ont besoin de vendre aussi.
Ils sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions, donc du coup,
c'est aussi difficile. Mmh. Attention,
ils sont un peu dans la même situation.
Il
n'y
a
les
pas
deux.
Beaucoup d'équipes qui sortent du lot. Lens, pour son état d'esprit, je suis complètement surpris, mais ça arrive qu'ils perdent à Strasbourg.
2-1 hier.
PSG au-dessus du lot, et puis après, Lille peut-être constant, changement d'entraîneur, jeune entraîneur. C'est le fils de. Mais c'est quand même un jeune entraîneur.
Et puis Lille joue la Ligue des Champions, il va falloir assumer aussi, hein, tout ça en même temps.
Lens joue la Ligue des Champions également. Donc, c'est énergivore.
L'OM de Genesio a-t-il les moyens de ses ambitions? A-t-il le moyen d'être ambitieux, pardon? Adam, supporter marseillais, est avec nous dans les grandes gueules du sport. Salut Adam.
Salut la grande gueule, salut à tous.
Bon, tu nous écoutes, t'as écouté un peu le dépit presque de Bennett il y a quelques instants.
Sur
l'ambition lucide en fait. Il faut avoir une ambition lucide. Ça doit être quoi l'ambition lucide de Marseille pour toi, Adam?
Ben moi aujourd'hui, j'ai envie de dire bien malin celui qui peut répondre à cette question parce que j'ai vu moi la conférence de presse de Genesio hier. J'entends ce qui se dit un peu à droite à gauche. Je vois un propriétaire démissionnaire. Moi je suis pas sûr que dans 72 heures on a encore un coach et un directeur sportif avec les messages qui sont diffusés.
Il a dit pour l'heure actuelle, Bruno Genesio, à l'heure actuelle, je n'ai pas intention de démissionner. Mais bon, la situation sera peut-être différente dans deux jours.
Ouais, on sait la place de la communication. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour.
Oui, j'ai noté aussi.
Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Et derrière, il te rajoute, on fera un bilan à la fin du mercato.
Ça sent pas bon pour toi, déjà, ce genre de com?
Mais bien évidemment, enfin, on connaît Marseille.
On peut pas dire. Il y a une chose là qu'il faut.
Ça respire la sérénité.
Non, par contre, il y a quelque chose qu'on peut pas laisser dire. C'est un propriétaire démissionnaire. S'il n'est pas là, ma courte, il n'y a plus de club. Il n'est pas démissionnaire. Il a remis 100 ou 120 millions cette année.
Si je peux me permettre.
Il n'est pas démissionnaire.
Il s'est investi sur les 10 dernières années, d'accord. Mais maintenant, je vais le remercier de maintenant se décider enfin à gérer concrètement son actif, et quand il le fait, quand il décide enfin de mettre le nez dedans, c'est pour couper les vannes. Et,
c'est pas pour couper les vannes. Ils n'ont pas le choix. Il y a l'UEFA qui a intervenu. C'est pas un problème de la DNCG. La DNCG, c'est Macourt qui la règle. Ils comblent.
Ils n'ont pas le choix parce de qui ? Ils ont un propriétaire qui a fermé les yeux pendant 10 ans. Il a fait confiance à des mauvaises personnes. Il s'est laissé berner par n'importe qui. Ça va être de notre faute, nous, les supporters. S'il décide enfin à mettre le nez dans ses affaires, il a pris la responsabilité de l'OM il y a 10 ans. Il a acheté une bouchée de pain à Margarita Louis-Dreyfus. Il en a fait n'importe quoi.
Non, mais c'est pas parce qu'effectivement. Mais attendez, les gars, on peut aller dans le sens d'Adam. C'est pas parce que Franck Macourt, il remet au pot tous les ans qu'il faut dire amen à tout ce que fait Franck Macourt.
Si. Non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus Macourt qui va prendre l'OM et comment ça va être géré. Et quand il y a les réunions avec les supporters, là, et je ne sais même pas ce que fait Macourt devant les supporters, et qu'il y a certains présidents de groupes de supporters qui se prennent pour d'autres et qui disent et qui se permettent de dire à Macourt si vous investissez pas, il faut partir du club. Mais moi, je serais le propriétaire.
Mais attends, je virerais les
supporters.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Benet? C'est le rôle des supporters aussi d'être dans la contestation.
C'est pas leur club. Mais
le club appartient aussi aux supporters.
C'est pas un truc de socio.
Mais attends, les propriétaires, ils viennent. Franck Macourt, demain,
800 millions d'euros. Qui en France met 800 millions d'euros à l'OM?
Je voulais te réveiller. Sur WhatsApp, message de Philippe qui m'a dit
quand même.
L'OM n'a clairement pas Pascal. Les moyens de ses ambitions. Je pensais qu'on aurait été capable de vendre Balerdi et Højbjerg en début de mercato pour combler le déficit, pour pouvoir récupérer des joueurs et relancer. Finalement, ça s'est pas fait, ça me fait un peu peur. C'est vrai que l'histoire de Højbjerg parle pas a peut-être été un moment salaire. Bascule dans le mercato. On rappelle, hein, il devait partir à Newcastle. Non,
mais encore une fois, c'est des conséquences.
Genesio va rester toute la saison. J'espère. Tout le monde a un peu peur, hein, quand même, pour Genesio.
Les conséquences de ces non-ventes, c'est pas le prix, c'est que finalement, effectivement, depuis des années, on faisait venir des joueurs à l'OM avec des salaires astronomiques. Et il n'y a pas un club aujourd'hui qui est prêt à assumer les salaires de ces joueurs-là. Donc,
et les joueurs, du coup, ne veulent pas partir dans le club.
Ils veulent pas partir. Il y a un moment, tu ne pars pas pour avoir la moitié de ton salaire.
Exactement.
Je suis quand même un peu d'accord avec notre auditeur, en fait. Macourt, il a attendu trop longtemps, en fait. Il a attendu trop longtemps. Trop longtemps de laisser faire par
ce trio Longoria, Benatia, De Zerbi, ça a été une catastrophe pour l'Olympique de Marseille.
Chaque année, à la même période, on faisait des débats sur le fait qu'on changeait tout l'effectif.
Franchement, il a juste.
Ben, il a assumé sa responsabilité. Il a assumé la responsabilité, puis chaque fois il a remis au pot.
Voilà.
Il a accédé à tous les désirs de ses dirigeants.
Il y avait un nouveau modèle économique à essayer de trouver en disant il faut qu'on se qualifie en Ligue des Champions. Et pour eux, c'était pour se qualifier en Ligue des Champions, il faut qu'on construise une équipe un petit peu avec des joueurs.
Oui, mais ça a été des mercenaires. En fait, ça a été des joueurs achetés vite avec des gros salaires. Et finalement, il n'y a rien qui a été construit sur la durée.
Et sportivement, il n'y a pas eu les résultats escomptés. Du coup, il y a la difficulté financière, et ben il ajuste et c'est comme ça.
La prise de parole de Bruno, elle me surprend, cela dit, parce que j'arrive pas à croire que Bruno Genesio et ses agents, ses conseils n'ont pas demandé, interrogé les dirigeants de l'Olympique de Marseille sur la véritable situation, parce que ne vendre que deux joueurs, ceux que tu citais, Højbjerg et Balerdi, je crois, c'était probablement pas suffisant. Et probablement que Bruno le savait. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à croire. Alors ça trahit, bien sûr, il est énervé, on est en fin de mercato, il voit que tous les joueurs sont donnés partant. Franchement, et certainement qu'il y a l'épisode Todibo là-dedans. Todibo, il a dû apprendre que le joueur filait à Lens parce qu'il pouvait pas attendre. Donc tout ceci fait que il est un petit peu.
Donc toi t'as pas de doute qu'il ne jette pas l'éponge.
J'adore Bruno Genesio. S'il part, ça me surprend. Au bout de deux journées, il s'en
c'est
va.
C'est pas bien ça, Genesio.
Franchement, je crois pas. Enfin, je suis à l'ouest, mais non.
Il n'y a pas de glacière. Ça, c'est une analyse pertinente. Bruno Genesio, sur l'éventualité d'une démission, on en a beaucoup parlé. Écoutez-le.
Quand vous êtes entraîneur, vous avez envie d'avoir les meilleurs joueurs possibles pour conduire un projet ambitieux. Lorsque vous venez entraîner l'Olympique de Marseille, vous venez pour de l'ambition, pour vivre des émotions. C'est avant tout pour ça que je suis venu. Donc forcément, si vous perdez vos meilleurs joueurs et que vous ne pouvez pas les remplacer, le projet il est plus difficile à conduire. On fera un point après le mercato sur les forces de l'équipe. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas d'actualité sur une éventuelle démission.
Pour l'instant, il n'y a pas d'actualité sur une éventuelle démission. Ce que nous disait Adam, que je remercie d'avoir été au 32-16 avec nous. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 32-16. Hein. Loïc nous appelle du Lot-et-Garonne. Salut Loïc.
Salut à tous.
Bon, tu nous écoutes parler de l'OM de Genesio. A-t-il les moyens d'être ambitieux? C'est quoi être ambitieux pour l'OM?
Ah, c'est les quatre premières.
Ah ouais, okay. Pourquoi? Parce que t'es Marseille, donc tu dois assumer cette histoire.
Exactement.
Aussi.
Exactement, il y a un passé, il y a un passif. J'aime à croire qu'on va avoir appris un petit peu de nos erreurs, mais malheureusement, chaque année, on les répète. Je crois que c'est une maladie chronique à l'OM, la répétition des erreurs. Là, il y a la possibilité d'être ambitieux. Tout dépend de l'effectif au lendemain du mercato.
Parce que c'est ça, Loïc. Est-ce que tu peux demander à Genesio de faire mieux, ou en tout cas aussi bien que l'année dernière, avec moins?
Non,
en fait, quelle peut être votre exigence, vous, supporter marseillais, avec Genesio, par rapport à l'exigence qui était la vôtre l'année dernière?
Le principal souci, c'est qu'on le prend pour être qualifié en Champions League l'année prochaine, mais il a potentiellement un quart de son effectif, de son 11 de départ, qui va être amputé ou qui sera même pas remplacé d'un point de vue qualitatif. Parce que tu peux trouver la quantité, mais la qualité, c'est très difficile. Et on se rend compte, j'ai l'impression que jour après jour, il y a un dossier qui sort, mais il y a moins 100 000 d'un côté, moins 300 000 de l'autre, il y en a... Là, on nous explique qu'il faut faire partir 4 à 5 joueurs pour avoir un prêt. Enfin, financièrement, je pense qu'on est vraiment dans le mal. Et ce ne serait pas étonnant que Genesio, dans 10 jours, dise « Bon, attendez, moi je suis venu pour jouer la qualif en Champions League. Là, avec tel effectif au moment
j'ai où, pas les
où
outils.
On a signé. Et aujourd'hui, je n'ai pas les outils. Donc, soit on revoit l'objectif à la baisse, soit je m'en vais. » Mais nous, les supporters, comme on est des bourricots, parce qu'on a l'OM dans le sang et qu'on est des fadas, eh bien, on ne va pas accepter et on va gueuler encore plus en mettant le coach dans la sauce, en mettant les joueurs dans la sauce, pour rien, puisque l'entraîneur fera avec les moyens du bord. Mmh. Et puis d'un âne, même si tu lui coupes les oreilles en pointe, ça ne fera jamais cheval de course.
Pascal, j'aimais une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais peut-être que Bruno, il a tiré fort la sonnette d'alarme, parce que il veut que McCourt remette au pot, tout simplement. Et peut-être qu'un bon résultat, un très bon résultat à Monaco, qui ferait de Marseille le leader de la Ligue 1 au bout de deux journées, serait peut-être, permettrait peut-être à McCourt de réviser sa position, je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il fait ça. Tiens. Mais de là à dire qu'il démissionne dans 3-4 jours ou 10 jours, moi je crois pas.
Après, c'est compliqué aujourd'hui pour tous les clubs français, tous ceux qui ne se qualifient pas pour la lucrative Ligue des Champions. Hein. Je crois que la Ligue 1 a verser 80 millions à se partager entre tous les clubs de Ligue 1. Donc débrouille-toi avec tout ça.
Oui, mais Marseille est la seule équipe à zéro recrue. C'est
ouais,
ça le truc.
Zéro recrue, le problème, c'est que les caisses sont vides et qu'elles ne se remplissent pas par les droits télé. Elles ne se remplissent pas par la qualification qui n'est pas là pour la Ligue des Champions. Donc elles se remplissent uniquement par le fait du prince, le fait du président milliardaire. Mais celui-ci, je ne sais pas combien il a versé depuis qu'il est arrivé à la tête de l'OM, mais ça, il aurait pu s'acheter des choses.
Oui, bon, il n'est pas à la rue non plus, hein, j'imagine.
Non, ma courte aujourd'hui. Je ne sais pas combien il a dépensé.
Non, mais
ce serait intéressant de savoir.
Tu y crois, Benet, toi, ce soir, une victoire à Monaco et McCourt, il peut être motivé à se dire allez, finalement on peut être ambitieux cette année.
Mais même si, enfin, même s'il gagne
genre,
à Monaco,
genre on va retenir Pachao, par exemple, Pachao qui est blessé, qui est pas là ce soir.
Non. Si.
Toi, tu penses qu'il va être pragmatique.
De l'effectif
quoi
actuel.
Qu'il
non mais tu si. De l'effectif actuel, tu les vois pas, être parmi les premiers du championnat.
Ah si. Avec non si actuel, non mais Georges me demande si McCourt devient ambitieux, si ça gagne à Monaco ce soir et que Sunderland met 50 millions demain matin, Pacquiao il sera à Sunderland demain matin. McCourt aujourd'hui, il est obligé de se mettre en conformité avec l'UEFA. Il n'y a pas d'autre rentrée d'argent, il n'y a pas de droit de télé en France, il n'y a pas de Ligue des Champions.
Sauf parce qu'il abonde.
Non, pas avec l'UEFA. Il faut que les rentrées soient équilibrées avec les dépenses. Ah ouais. Et donc, pour la DNCG, oui, il remet.
C'est ça le problème, c'est que tu as plusieurs épées. Et
s'il ne fait pas ça avec l'UEFA, il risque 3 ans de suspension de Coupe d'Europe. C'est surtout ça le gros problème.
Et la Coupe d'Europe qui, aujourd'hui, ce qui rapporte le plus au club.
Hein,
voilà, Christophe le disait il y a un instant. L'OM de Genesio a-t-il les moyens de ses ambitions? Vous dites non à 86%. Donc, ça a juste, le oui a juste un tout petit peu progressé parce qu'on aime bien Pascal quand même.
Moi j'aime bien Pascal. Tu vois, vous depuis que ce matin tu me détestes. Donc,
ah bah non, c'est toi qui nous détestes.
Non mais attendez, l'Olympique de Marseille, c'est un grand club, c'est un club particulier.
Ah ouais, Christophe
Einstatz. Ouais, j'ai demandé à IA combien Macron t'avait dépensé depuis qu'il est arrivé à la tête de l'OM.
Quelle source?
Alors, c'est des sources 760 millions d'euros.
Ouais, j'étais pas loin.
J'ai demandé à IA.
Ouais,
l'intelligence artificielle.
C'est vrai,
juste pour avoir une idée.
C'est vrai, comme quoi il vit avec son temps. Toi qui es le dénigre à chaque fois. Regarde.
Regarde-le, t'as vu ce matin? Il veut sauver la zizanie.
Si je peux me permettre, t'essaies de le mettre en boîte depuis.
Ah, voilà, de 9h05.
Mais c'est lui, je parle.
Et à un moment, ça commence à bouillir.
Il est en train de le déstabiliser pour les jeux du sport.
Ils sont insupportables, les tennisman, là, depuis ce matin.
Mais non, mais c'est pas ma faute. Si tu veux faire des sujets avec
Et oui, c'est bientôt la rentrée sur RMC, effectivement, ce sera mardi, Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Pascal Duprat et Sarah Pitkowski ont déjà leur nouveau cartable. Et surtout, c'est le moment pour vous de jouer et gagner votre prime de rentrée sur RMC. Je rappelle, la prime de rentrée est actuellement de 29 000 euros. Sarah Pitkowski s'est proposée de tourner la roue pour faire grimper cette prime. Allez, c'est parti, Sarah, fais tourner la roue. Ah là là là, c'est un rêve d'enfant qui se réalise, tout simplement. Sarah est convaincue qu'il y a plein de caméras qui montrent que c'est incroyable. Combien on va rajouter à la cagnotte, Sarah? Pas grand chose. 500 euros en plus. Quand même, 29 500 euros. Donc, désormais, le nouveau montant de la prime de rentrée. Important, hein. Gardez bien en tête. 29 500 euros. Donc, envoyez dès maintenant prime au 732-16. Prime au 732-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Restez bien à l'écoute sur RMC. On peut vous appeler à tout moment pour répéter le montant de cette prime et la remporter. 29 500 euros. Tout de suite, les GG, vous me dites si j'y crois ou j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois, j'y crois pas.
J'y crois pas, les amis. Roger Federer, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est entré cette nuit au Hall of Fame du tennis. C'est une sorte de musée, en fait, hein, pour rendre hommage à tous les plus grands joueurs de l'histoire. C'était à Newport, aux États-Unis. Il a pleuré, Roger, la grande classe, un petit costume beige. Un peu dans un petit camailleux de beige, comme Julien Beneteau ce matin, qui est très, très classe. Hein. Ça, je vais être dans la bienveillance avec Benet jusqu'à la fin maintenant.
Ça y est.
Ah ouais, oh là, putain, quelle énergie.
Bon, après, si tu peux continuer à le titiller pour qu'il soit moins fort au jeu-jeu.
Ah,
moi,
bah, on va voir.
Non, plus tu le titilles, plus ça va l'énerver, il va être encore meilleur, quoi.
Moi, j'arrive pas à croire que Christophe va rester flegmatique jusqu'à la fin de l'émission. Il va péter un plomb à un moment donné.
C'est vrai. Non, je suis d'un calme olympien.
Incroyable.
Ça lui a fait du bien.
Il a fait une cure de magie.
Incroyable.
J'ai gagné les jeux hier tranquille. Ouais, mais quand t'es pas là, je gagne. Mais quand t'es là.
T'es serein.
Les gars, cette info sur Federer, elle m'a fait penser à ça. J'y crois pas. Vous me dites, en France, est-ce qu'il faudrait panthéoniser nos légendes du sport? Est-ce qu'il faudrait, un peu comme font les Américains, parce que c'est très américain, ils le font NBA, les Hall of Fame et tout ça, est-ce qu'il faudrait rendre hommage un peu plus à nos sportifs pour ne pas les oublier, en fait? J'y crois ou j'y crois pas, Christophe?
Non, moi non, je suis pas du
tout fan. Ah ouais, Pascal?
Ah oui, moi j'aimerais.
T'aimerais bien, Sarah?
Ah oui. Mais mille fois oui.
Bennett?
Ouais. Ouais, aussi.
Mille fois, Sarah?
Ah mais ouais. Mille fois.
Pourquoi
oui. Parce que je pense que le fait d'avoir un cérémonial ou un lieu où on peut mettre en valeur les sportifs, c'est aussi rappeler ce qu'ils ont fait dans leur carrière sportive aujourd'hui.
Rentre ici, Kylian Mbappé! Au Panthéon,
mais,
tu vois.
Mais oui, parce qu'aujourd'hui, on fait pas partie des. Quand on parle de la culture du sport, on place pas la France comme étant un pays qui a une grande culture du sport. Et parfois, on se souvient et on est marqué par les sportifs sur ce qu'ils deviennent après leur carrière ou quand ils disparaissent. Pardon, mais vous vous souvenez quand on a allumé la flamme olympique? Comment, à un moment, aidez-moi, j'ai perdu
la transmission,
son...
transmission.
Oui.
Pérec.
Voilà, Marie-Josée Pérec. C'est-à-dire qu'on a quand même, gardé ce secret ou hésité à savoir si c'était Marie-Josée Pérec qui devait allumer cette flamme olympique. Marie-Josée Pérec, c'est pas quelqu'un qui est naturellement dans les médias ou transmet son sport. Et je trouve que de pouvoir se remémorer ce qu'elle a apporté à son sport et de pouvoir célébrer ça, mettre
en avant ses champions. Aloga Platini avait aussi allumé la base à Albertville. Mohamed Ali, Marie-Josée Pérec, je suis d'accord. Mais les faire entrer dans un panthéon, la déification des sportifs.
C'est tout à fait américain.
Pour célébrer en revanche,
regardez là, je sais pas si vous avez vu
leur sport et qu'est-ce qu'ils ont marqué. Ouais. Voilà.
Est-ce que vous avez vu la série consacrée à Michel Platini là ?
Pas encore. Oui.
Regardez là, parce que moi franchement, c'est le genre de choses qui fait qu'on se souvient des icônes du passé. Platini, pour toute la génération qui est née dans les années 90-2000, évidemment, ça ne veut rien dire.
Mais est-ce que ça ne veut rien dire ?
La question c'est c'est déjà un élément.
Regardez, il va disparaître.
Mais pas du tout, parce que tu sauras, tu te rappelleras de ce mec, le truc et tu te rends compte de la personnalité de ce garçon.
Mais ce reportage, il va s'effacer à un moment.
Tout s'efface. Exactement. Les tombes aussi.
Il peut y avoir des endroits. Quand on discutait avec Georges, c'est très américain, c'est très canadien aussi.
Pas trop
australien, anglais, mais nord-américain. Les Québécois qui traduisent tout, ils appellent ça le temple de la renommée. Tu vois, c'est un truc. Et en fait, je me suis dit, mais à chaque fois que je vais aux États-Unis dans une université, à leur échelle, tu vois, tiens, un tel, il a fait ça en 98 en haltérophilie.
Les numéros sont retirés.
Qu'il a marqué l'histoire. Ça fait partie aussi de la transmission de la culture et de l'histoire. Alors là, c'est d'université, mais aussi d'un sport. Et que je suis d'accord avec toi sur le documentaire sur Platini, ça vaut presque mieux qu'une séance d'intronisation en elle-même, parce qu'il y a un truc qui va rester. Mais qu'il y ait des lieux où on rappelle que dans tel sport, un tel, il a joué de telle année à telle année, il a fait ça.
Les musées du sport, il y a un musée du sport.
C'est des objets, Christophe. C'est
des objets avec des vidéos, des audios de ce qui s'est passé pour que les jeunes générations comprennent. Mais là, tu vas mettre une stèle ici.
C'est pas une stèle, c'est une cérémonie autour de ça.
Je suis complètement d'accord avec les tennismen et women.
Ouais, bah écoutez, oui.
Parce que non, je suis contre Christophe ce que tu dis. Et je vais prendre un exemple.
Vous êtes des grenouilles du bénitier sportif.
J'ai deux objectifs. J'ai deux objectifs, c'est de donner mon avis, et le deuxième, c'est que tu sortes de tes gonds. Donc pour que la fin de l'émission soit
truculente. Tu es une grenouille de bénitier sportif, mon Pascal.
Mais en fait, tu vois, quand on fait par exemple, c'est arrivé, Georges nous pose la question, est-ce qu'il rentre parmi au panthéon du sport français ? Et souvent, nos réponses, elles sont sur la temporalité, c'est-à-dire on va citer des champions du moment et on va en oublier d'autres, Hino, Killy pour le ski par exemple, voilà, et on dit le prétexte c'est que c'est il y a longtemps, mais il y a longtemps qu'ils ont fait c'est exceptionnel.
Et ça, je suis d'accord avec
toi. Pour transmettre à nos jeunes, moi je pense que ça aurait des bienfaits que les jeunes ne soient pas à se dire Platini c'était avant.
Ouais, mais alors comment tu fais pour
institutionnaliser à notre manière
tu leur donnes le nom d'une rue, tu leur donnes
non. C'est déjà fait le nom d'un stade.
Tu leur mets la marque de leur pied dans le bitume sur
pas plagier les Américains, mais trouver. On a suffisamment de personnes, ingénieuses pour trouver. Si t'aimes mieux. Mais de sorte que la transmission, elle se fasse de génération en génération, et non pas sous prétexte que ça fait bien longtemps. On dise, Hino, mais c'est il y a bien longtemps. Aujourd'hui, c'est dense le cyclisme. Non, mais Hino, quand il gagnait.
Il faut raconter leurs histoires. Et les raconter encore et expliquer aux jeunes générations ce qui s'est passé par le passé.
Encore et raconter de manière plus complète. Voilà.
On aura l'occasion d'en reparler, je pense. C'est un bon débat, grande gueule du sport. Ça, tiens, on n'a pas eu le temps de le dire, mais Joan Zarco fait son retour au Grand Prix d'Aragon aujourd'hui. On rappelle, il y a tout 3 mois, il avait violemment chuté à Barcelone. Il aurait pu perdre sa jambe dans cette histoire, l'accident avec Bezzecchi. Il s'est rétabli beaucoup plus rapidement que prévu. Il sera au départ du Grand Prix aujourd'hui à 14h à suivre sur RMC. Il a fini 9e de la course au sprint. Hier, ils sont on parlait des zinzins du trail hier en moto, Christophe, hein, Zarco, c'est pareil, hein, ils se cassent de partout, mais ils reviennent. Impressionnant. Donc, on va le suivre évidemment sur RMC aujourd'hui. On revient dans un instant dans le vestiaire. On va parler de la difficulté à prendre du repos dans le sport de haut niveau. Et puis, on va parler d'Arthur Fils, invité exceptionnel de Bartoli Time ce soir à 19h30. Et dont on va parler des ambitions avec vous au 32-16 sur RMC dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.